Merci Nicole. Bonjour à tout le monde. Désolé de ne pas avoir pu assister depuis hier. Moi aussi, mon titre est mensonger partiellement. D'abord parce qu'il n'y a pas l'équivalent pour l'histoire des études que vous menez à Caen. Donc c'est important. Autant dire que je m'appuie sur rien pour dire ce que je vais dire. Mais ce n'est pas tout à fait le cas quand même. Je vais essayer de vous le montrer. Ça sera moins peut-être également le point de vue des élèves que celui que portent les enseignants sur les élèves dans un rapport à l'identité, ce qui va être un autre niveau d'explication. Mais en écoutant des éléments du corpus que tu as présenté, je me disais que, enfin, je suis pour le partage des corpus, parce que évidemment j'y ai retrouvé des choses, et d'ailleurs je vais faire des citations des personnes que tu as citées, des élèves que tu as cités. Alors j'ai une devinette pour démarrer. Qui a dit « Il y a aujourd'hui une nationalité européenne, comme il y avait au temps d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide, une nationalité grecque. » C'est assez récent. Je vous aide. Une de vos élèves a dit « C'est un peu la même chose, des pays qui ont le même esprit. Hein, » c'est un peu la même... voilà. Victor Hugo, 1869, dans les carnets, « Une guerre entre Européens est une guerre civile. » juste avant le déclenchement de la guerre. Voilà. Alors, ce cadre-là, je le fixe parce que... Et je vais démarrer par une introduction assez rapide, mais qui est quand même pour dès lors qu'on parle de mémoire, dès lors qu'on parle d'identité, dès lors qu'on parle d'identité européenne, donc de place de l'Europe dans l'enseignement de l'histoire, inévitablement, on se heurte à une question grave qui agite les historiens, qui est la crise de l'horizon d'attente. Je ne vais pas développer la notion d'horizon d'attente, Kosellek, Hartog, mais je vais aller directement au but, hein, d'abord parce que je n'ai plus beaucoup de temps, donc je vais vraiment aller au résultat plutôt qu'à la démonstration, si vous me permettez. Si on se réfère à Bobéro et à d'autres, en fait, cette crise, elle date des années 60. Bobéro dit même 62, pour dire la perte de l'Algérie. Et vous allez voir que je ne cite pas l'Algérie par hasard, évidemment. Crise d'identité de la France républicaine, crise d'identité de la nation face à l'intégration européenne et à la dilution éventuelle des symboles nationaux dans le cadre plus élargi de l'Europe, crise d'identité de la France en ses identités multiples, et on voit tout, vous souvenez dans les années 70-80 le développement du régionalisme, du localisme, de l'hyperlocalisme, enfin de toute une série de revendications des langues, culture régionale. Crise d'identité, crise des valeurs aussi. On n'a pas besoin de faire le détail sur une des grandes valeurs de la République scolaire qui est la laïcité, mais on voit bien les débats que ça a suscité. Et au fond, on s'est posé trois questions pour aller vite. Hein. Droit de l'homme, le retour mémoriel de l'histoire scolaire qui vient après le retour mémoriel à la société tout entière, c'est la question de la Shoah, de l'État français, de la continuité ou non des structures républicaines dans la... Et on le voit avec une figure emblématique qui est Papon. France terre d'asile, immigration, l'accueil des harkis, pourtant français, supplétifs, l'accueil des rapatriés. Bref, toute une question qui ont agité. Et partant, c'est ça qui nous occupe ici, la question de l'histoire enseignée. C'est-à-dire qu'évidemment, la crise d'identité affecte la crise enseignée. Je vous passe le détail de ce qu'a été la crise de l'histoire enseignée dans les années 80. Evelyne Herry, sur l'évolution des programmes récents, Evelyne Herry du secondaire, puisqu'il va être question des élèves ici, Evelyne Herry insiste sur deux mutations de programmes. Celle de 85-88, en fait elle dit 86-88, je mets 85 parce que j'aime bien qu'on n'oublie pas le primaire, hein, qui est déterminante, surtout si on veut une continuité de Jules Ferry à nos jours. La façon dont fonctionne le primaire reste toujours une manière de réévaluer ce qui se fait au secondaire, un peu comme un miroir. Donc 85-88, c'est la crise assumée de l'histoire enseignée, la réaffirmation d'un récit national, alors au primaire principalement, avec une sorte de réification de la Révolution française, emboîtée par échelle gigogne, comme dit Evelyne Herry, à l'Europe et au monde, plus largement. Et puis elle dit, c'est passé un deuxième temps, c'est les années 80. 95, qu'on appelle aussi les programmes Born-Bernstein, c'est un tout autre contexte qui est dominé par Maastricht et par l'adhésion à Maastricht et l'ancrage européen. tenir ensemble, dit Evelyne Herry, il faut tenir ensemble le cadre national et les faits majeurs européens. Il faut mettre l'accent, comme le dit Jean-Pierre Rioux, sur les hantises du présent. Et d'ailleurs, si on regarde les programmes de 95, tous ceux qui sont établis à partir de ces années-là, on a une récurrence, une occurrence forte de termes comme patrimoine, mémoire, héritage. Alors, ça a été d'ailleurs extrêmement critiqué par des historiens, Patrick Garcia et d'autres, mais j'y reviendrai peut-être. Trois temps pour essayer de délivrer une réflexion un peu construite sur ce sujet démesuré, hein, qui dimension mémorielle de l'identité européenne pour les élèves du secondaire. Je vais démarrer par l'identité européenne. Alors, quid de l'identité européenne ? Bon, là, je vais évidemment très vite parce que la question est politique. Vous connaissez le débat sur l'intégration européenne et qu'est-ce qu'on fait des diversités nationales. C'est tout le travail du Conseil de l'Europe, hein, qui est souvent très méconnu dans le milieu, y compris éducatif et même à un haut niveau, c'est-à-dire la somme de textes produits par le Conseil de l'Europe sur la question de l'intégration européenne dans les programmes scolaires, pour tous les pays européens, c'est absolument considérable. Quid de l'identité européenne ? Un des grands débats, ça a bien été la question de... je lisais encore un texte de Lustiger là-dessus, pas plus tard qu'hier, sur la question de l'assise chrétienne de l'Europe. C'est-à-dire que un texte d'ailleurs très définitif, puisqu'il dit, Lustiger, et il est repris par d'autres, qu'il est mortel de ne pas prendre en compte dans le préambule de la Constitution européenne l'héritage chrétien, absolument mortel, hein. Il n'y a pas d'ambiguïté sur les termes. Je peux pas m'en empêcher, c'est une journée de géographe, mais j'aime ça aussi. Quelle limite géographique ? On sait que c'est un des débats de la géographie contemporaine. Quelles sont les limites géographiques de l'Europe ? C'est un débat qui n'est pas clos, évidemment, qui, à mon avis, ne le sera jamais. Chose intéressante, c'est que ces mêmes questions de l'identité européenne, finalement, tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est profondément. Où on a des tas d'explications, on peut accumuler les arguments de ce qui fait référence européenne et tout, mais qui peut être contesté soit à l'intérieur d'autres pays, soit au sein du même pays par d'autres qui ne partagent pas une même vision pour des raisons politiques, philosophiques ou religieuses, se pose dans d'autres disciplines. Je suis allé voir les programmes de latin et grec. Parce que je me suis dit, si c'est chrétien, latin, grec, c'est ça l'assise culturelle de l'Europe pour toute une partie des agents, éventuellement d'ailleurs du monde scolaire. La seule chose dans les programmes de latin, quand il y a une ouverture sur l'Europe, hein, c'est un des points du programme de latin et de grec, et dans l'ouverture sur l'Europe, c'est Rome. Et pour les géographes que beaucoup êtes ici, dans le programme de quatrième, voilà, je cite, hein, « Rome, la vie de la cité, se prête aussi une perspective européenne, à condition que la notion urbs soit prise en compte au lieu du simple traitement anecdotique par les manuels, comme les embarras de Rome, le bruit de la ville. » Non, il faut une dimension géographique qui est aussi une dimension européenne sur la question. Et c'est Rome, et uniquement Rome, qui est cité. Deuxième petit incise dans la question de l'identité européenne, quid de l'identité européenne des élèves ? Alors évidemment, je serais ravi de présenter tout le travail extraordinaire que fait l'équipe de Caen, mais j'en suis profondément incapable parce qu'on ne l'a pas mené, ce travail. En revanche, il y a quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a travaillé sur cette question, notamment sur l'Académie de Lyon, et je pense qu'il y a des collègues qui ont participé à ça d'une manière ou d'une autre, ou qui en ont entendu parler. C'est Nicole Tutiot-Guyon qui a travaillé sur l'expérience sensible de l'Europe ou en quoi l'Europe résonne aux oreilles des élèves du secondaire. Donc je vous livre les conclusions. Elle a fait une des interventions qui est en ligne d'ailleurs au colloque de Saint-Germain-en-Laye, sous la direction de Marc Vigier, principalement en 2003. Alors, les élèves du secondaire, tout ça par rapport à l'histoire, hein, mais pas seulement, hein, mais quand même. Fierté d'être européen, c'est tout à fait clair. Mais pas d'identité européenne affirmée, dit Nicole Tutiot-Guyon. Le « nous », il en a été question un peu dans le corpus de l'analyse lexicale, hein, le « nous » européen est exceptionnel, il est marginal, il apparaît vraiment de manière statistique très pauvre. Troisième temps, l'identité des élèves, au fond, c'est la citoyenneté active aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain, qui exclut un peu l'histoire, et même Nicole Tutiot-Guyon est plus directe que ça, elle dit « L'Europe des adolescents, c'est avant tout une Europe du présent qui n'a pas de passé avant le XXe siècle. » Et en écoutant ce que tu lisais des propos des élèves, je me disais, là, avec ce corpus-là, ne serait-ce que ça, on aurait des éléments qui viendraient confirmer ce qu'a analysé Nicole Thieu-Guyon sur le fait que avant, et c'est vraiment sans doute la Seconde Guerre mondiale qui est le dernier élément réel auquel intuitivement et spontanément les élèves se réfèrent, hein, Sainte Mère à l'Église évidemment, mais là c'est marqué localement, mais disons qu'on pourrait dire que ça s'arrête là, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de connaissances sur l'histoire, je vais revenir, mais évidemment spontanément, en termes d'identité historique, puisque c'est ça mon sujet, très certainement, ça s'écrit, l'histoire, la conscience mémorielle et historique des élèves du secondaire aujourd'hui s'écrit au présent, profondément au présent et au futur. Ce qui évidemment nous interroge. Et elle le dit, c'est l'Europe des droits de l'homme, c'est-à-dire les valeurs, et de l'individualisme, on pourrait même dire du consumérisme, mais je vais y revenir un peu tout à l'heure. Donc j'ai abordé cette question. Puis dernier point, que serait une identité européenne scolaire ? Je pose la question parce que c'est une question qu'on se pose depuis 20 ans à l'inspection générale, à la DGESCO, dans tous les centres de réflexion où on produit de la pensée scolaire. Qu'est-ce que ça serait finalement qu'un programme scolaire qui intégrerait ? Alors, les programmes Born-Bernstein, pour y revenir, faisaient suite au programme Braudel, vous savez, ce qu'on appelle les programmes dits Braudel de 62. Ces programmes-là faisaient fi du roman national. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont été très, très peu pratiqués. Les programmes Born-Braudel, Born est un de ceux qui a appliqué, un des rares qui a appliqué le programme Braudel. Donc, par fidélité à ses débuts de jeune prof, il a voulu, avec d'autres, appliquer cette logique de casser le roman national. Il s'agit de d'arrimer de nouveau, enfin, j'aurais pu dire, ça aurait été plus joli, l'histoire enseignée à la recherche aussi. C'est-à-dire, on ne fait pas d'histoire, vous savez, c'est un peu le postulat très fermement défendu, ça l'a été encore très fermement au moment de l'affaire Guy-Mocquet. Nous, on n'est pas dans la mémoire et la commémoration, nous, on est dans l'histoire scientifique. Et du coup, au nom de cette logique intellectuelle, sur laquelle je ne porte aucun jugement, d'ailleurs, j'observe uniquement, les programmes Born-Bernstein ont clairement réaffirmé l'histoire scientifique en disant « on ne fait pas d'histoire si on ne connaît pas le contenu hein, ». Mais ça va avec tout un ensemble, c'est à la mode. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de donner à la discipline une fonction de remédiatrice d'un sentiment identitaire par une démarche patrimoniale, avec, y compris, la logique européenne derrière, permanente, c'est-à-dire comment faire en sorte de donner une histoire, et c'est bien le programme de seconde que vous connaissez, c'est comment donner une histoire globale aux élèves qui soit pas dans un récit national, pas dans un roman national, qui soit tourné aux meilleures sources de la recherche universitaire et qui soit en même temps profondément désenclavé de l'espace national et européen. Volonté d'élaborer une culture commune européenne, issue d'une identité européenne construite par et dans le passé. Laurent Wirth, qui est inspecteur général, propose, lui, des repères identitaires. Alors, je ne vais pas tous les lire, mais il s'interroge sur les repères temporels dégagés. Alors, il pense à Victor Hugo. Je pense que, bon, Victor Hugo, la publication du Pan-Europe de Coudenhove, Kalergi en 23, le plan brillant de 29. On va essayer d'imaginer toute une série d'actes fondateurs de l'Europe. Il propose des lieux de mémoire. Alors ça, les lieux de mémoire, c'est une des grandes données de l'Europe aujourd'hui, et on pourra en reparler si vous voulez, mais puisque les pays européens n'arrivent pas à définir une liste des lieux de mémoire, et qu'un des rares lieux, c'est Auschwitz qui revient, et je vais y revenir. Les lieux de mémoire, alors voilà ce qu'il propose, Verdun, mais bon, il dit que c'est un carnage quand même, et que c'est une véritable déchirure, et évidemment, si c'est Auschwitz et Berlin comme lieu de mémoire européen, on a une... mais ça va être une des véritables questions. Hein. Je terminerai, ma conclusion sera là-dessus, sur justement la tension présente et future des élèves et le rapport au passé, mais je vais essayer de développer. Quel héros de l'histoire aussi de l'Europe ? C'est-à-dire quels sont les... Vous savez, si je m'en réfléchis dans une vision positiviste ou lavicienne de l'histoire qui serait... il faut quand même qu'on présente de l'incarnation de nos valeurs. Hein. Alors... Philippe Joutard avait travaillé là-dessus déjà. Il y a Churchill, De Gaulle, Marie Curie, parce qu'elle est franco-polonaise, Jean Monnet, Schumann. Lui, vous voyez, Laurent Wirth a une tendance à ancrer, lui, très précisément dans la construction européenne, hein, et avoir du mal à... Voilà. Mais les héros européens, je sais que Born, précisément, on vient de lui confier une mission sur la question européenne des héros. Il réfléchit là-dessus et il ne s'en sort pas. Enfin, personne ne s'en sort, de toute façon. Parce que dès qu'on propose aux Italiens les héros qu'on a définis en Espagne ou en Allemagne, évidemment, chacun est... Bon. Voilà. Deuxième temps... Le sujet, c'est quid de la dimension mémorielle. Je vais essayer d'aller plus vite, Nicole, même si je pense que je perds pas de temps, de cette Europe. On va s'intéresser à la dimension mémorielle cette fois-ci. Hein. On laisse tomber l'identité européenne, de toute façon, on ne sait pas ce que c'est. Mais la dimension mémorielle. Si j'étais philosophe, au fond, je dirais, c'est-à-dire que si j'essayais de faire du Marcel Gaucher, vous savez, parce qu'il y a plein d'historiens qui essayent de faire du Marcel Gaucher, donc je vais essayer de m'y... en parodie de Miseguier, si on faisait du Gaucher, on dirait qu'à l'heure démocratique, Rome a cédé la place à Auschwitz, en termes de référent universitaire et public. C'est-à-dire que avant, et on voit même dans les programmes de primaire de la Troisième République, hein, les années 1885, jusqu'en 23, clairement, c'est Rome, la Grèce antique, c'est ça les valeurs. Aujourd'hui, en termes de culture scolaire profonde, je le dis un peu de manière provocante, évidemment, parce que c'est pas tout à fait ce que je pense. Si j'étais sociologue, si je m'appelais Bernard Lahire, qui est tout à côté, je dirais que, vous savez, dans la tension entre... Est-ce que c'est une démocratisation scolaire qu'on a eu depuis 30 ans ou une massification de l'enseignement secondaire? On pourrait dire que, au fond, ce débat, cette question a surtout profité à la massification et que la culture classique européenne reste aujourd'hui socialement restreinte. Si je m'appelais comme un autre sociologue, je dirais confisquée. Et que la culture secondaire de masse, via la scolarisation, a permis à travers les programmes, et notamment depuis les années 85-90, d'être dans une culture patrimoniale de l'Europe, mais plus vraiment ancrée sur ce qui fonde la culture authentique, vous savez, celle dont Brighelli se réclame. C'est important parce que je le dis pas à titre anecdotique, il était encore sur France Info ce matin, c'est parce qu'il parle de ça. C'est-à-dire qu'il parle explicitement de la culture historique qui a foutu le camp, parce qu'on a foutu dehors les humanités. Et donc la tension qui est là, c'est qui possède encore cette culture? Eh bien, si on regarde sociologiquement, contrairement à ce qu'on croit, de moins en moins de personnes la possèdent, mais par contre, de plus en plus haut socialement. Donc c'est une véritable question. Que savent les élèves, deuxième petit temps, que savent les élèves par l'école? Que savent les élèves de la mémoire et de l'histoire de l'Europe par l'école? Alors, dans les programmes du secondaire, l'Europe est souvent multiple, indécise. Là, je m'appuie sur les travaux à la fois de Nicole Tutiot-Guyon, d'Evelyne Herry et d'autres. Soit c'est un simple cadre d'études, l'humanisme, la réforme, la renaissance. On voit ça dans une sorte de cadre territorial élargi, et on place la France quand on peut. Deuxièmement, c'est un lieu de rayonnement de la culture française, les Lumières, les droits de l'homme, Napoléon, Code civil. Troisièmement, c'est un lieu, l'Europe est un lieu de guerre et de conflit, un lieu de déchirement, Verdun, Auschwitz, mais pas seulement, ça peut être aussi 843, c'est-à-dire la dislocation. Hein. On a toute une série de dates comme ça qui sont des drames, des espèces de ruptures, des... Et plus rare, et là de manière plus complexe, c'est le lieu foyer, l'Europe, de l'expansion. Alors, de deux manières, soit l'émigration vers les États-Unis, 19e siècle principalement, immigration européenne, soit, de manière intéressante, la colonisation. Et d'ailleurs, dans les programmes, c'est bien le cadre européen qui domine. Bon, j'ai évoqué tout à l'heure la patrimonialisation des programmes actuels avec Patrick Garcia et d'autres, d'ailleurs pas seulement lui, ont critiqué ce qu'il appelle une muséification d'un passé historique, c'est-à-dire un passé donné comme ça, un peu dans la continuité des lieux de mémoire de Pierre Nora, c'est-à-dire un passé qui n'est plus et qui en même temps se donne à voir en permanence dans le présent, dans une histoire patrimoniale. Alors, identité, mémoire, construction mémorielle... est-ce que, et c'est mon dernier temps, est-ce que le troisième terme, parce que en rhétorique idiote, ça aurait été de prendre élève du secondaire pour troisième terme, pour recoller à ma communication, mais évidemment je le fais pas puisque ça parcourt l'ensemble. Est-ce que le troisième terme, ça serait pas la question de la culture, du mot culture. Alors, de quelle culture parle-t-on, premier temps ? Si on se réfère à une conception un peu large, anthropologique, de définition de la culture, ce serait des manières de penser, d'agir, de sentir, plus ou moins formalisées, partagées par une pluralité de personnes, liées à un apprentissage culturel. Alors l'apprentissage culturel, il est fait soit dans le milieu familial, soit dans le milieu scolaire, soit dans le milieu sociétal. Les sociologues nous apprennent depuis 30 ans que... Des définitions aussi larges montrent qu'il y a des centaines de milliers de cultures dans un endroit où on pourrait penser qu'il n'y a qu'une culture, que les rapports à la culture est une chose extrêmement mouvante. Si on prend la définition de l'UNESCO, c'est de l'ensemble des traits, ça serait l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Et il a été question de l'univers urbain européen. On voit bien que là, d'une certaine manière, est-ce qu'on est dans des cultures différentes en Europe ? Est-ce qu'il n'y a qu'une culture ? Ce sont des sujets compliqués. Dans les enquêtes qu'on mène ici à ESSEG, enjeu contemporain de l'enseignement d'histoire-géographie, en milieu scolaire, on s'aperçoit que la catégorie culture est utilisée le plus souvent de manière très sauvage par les acteurs du système éducatif. Et quand je dis par les acteurs du système éducatif, c'est pas seulement par les enseignants, mais c'est aussi par les corps d'inspection, c'est aussi par l'inspection générale ou par les corps intermédiaires, si vous voulez, rectorat, académie, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, je vais essayer de préciser un peu, il en va un peu de même quand on parle, si vous voulez, la notion de culture, elle est à la fois culture, quand on dit culture européenne, formée à la culture européenne, c'est un peu la même chose que quand on dit les élèves sont d'une culture différente. Il a été question tout à l'heure de multi-appartenance, et à mon avis, ça fait absolument partie de cette problématique. Je vais essayer de développer. Des questions se posent concernant un autre type d'emboîtement d'échelle dans les classes auprès des acteurs. Je vous ai dit que je parlais surtout des enseignants là qui réfléchissent sur les élèves du secondaire. Des emboîtements d'échelle historiques et géographiques. Au fond, quand ils évoquent la question dans les entretiens nombreux qu'on a fait passer, notamment avec Pascal Mériot dans l'enquête qu'on a menée sur l'histoire de l'immigration dans les classes, l'enseignement de l'histoire de l'immigration, avec Olivier Absalon, au fond, on est élève de Créteil, ou élève d'Aubervilliers, peu importe, ou de Vénissieux, on est français, mais on est dit issu de l'immigration maghrébine. Jusqu'à quand, disait Sayad, on va appeler quelqu'un Rachid issu de l'immigration. Combien de générations faudra-t-il qu'on lui enlève ce stigmate-là? Mais il est aussi européen. Et cet emboîtement pose un problème pour les collègues. Si j'ai des éléments de réponse pour les élèves, où je sais que ça n'en pose pas un pour eux. Pour les collègues, ça en pose un parce qu'ils ont l'impression que ça les renvoie à des espaces géographiques différents, la colonie et temporel différent, la colonie, l'espace actuel du bled, ce qu'on appelle le bled, toutes ces espèces de constructions identitaires dont on ne sait pas mesurer les choses. Pour ces élèves définis comme ça, hein, élèves de Créteil issus de l'immigration maghrébine européen, semblent se poser des questions qu'on ne se pose pas pour d'autres. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Et notamment, pour des élèves français de Martinique, par exemple. Pour qui la question géographique, par rapport à l'Europe, est bien plus prégnante que pour un élève d'Aubervilliers. Je n'ai pas besoin de faire de détails. Il était question à table tout à l'heure avec Gérard Rugoni, quand on est de La Réunion, pour venir passer un examen à Paris. C'est, comme disait Gérard Rugoni, comme si moi je devais passer mes examens à New York. C'est-à-dire que là, il y a un véritable enjeu géographique et un rapport à l'histoire et à la mémoire que peut-être on n'envisage pas assez souvent. C'est-à-dire qu'on pose les questions, en fait, de manière sélective. Je voudrais développer un exemple rapidement, si vous me le permettez, sur le fait que, sur la question de l'histoire de l'immigration à propos de la culture. Mais je vais plutôt aller vite pour aller directement au point de conclusion. C'est sur la question qu'on a intitulée « Le credo du divers ». Il y a une intention bienveillante des enseignants, ça c'est issu de nos recherches, une intention bienveillante de valoriser le culturel, la question culturelle, qui amène les professeurs à envisager la culture de manière abstraite, parfaitement décontextualisée la plupart du temps, et dans la majorité des cas, sans aucune référence avec le milieu social d'appartenance. On a évacué, si vous voulez, la question ethnique est venue recouvrir la dimension sociale des appartenances. Comme si tout se passait dans un ciel pur des cultures, comme dit Abdelmalek Sayad, c'est-à-dire une situation abstraite où la culture est réifiée et posée comme une donnée transhistorique, transcendant les différences de classe. On parle volontiers à propos des immigrés, par exemple, de la culture algérienne, la culture maghrébine ou encore espagnole, portugaise, comme si chacune de ces cultures était une transposée, comme s'il y avait une culture française, comme s'il y avait une culture européenne. C'est-à-dire qu'on est dans des fonctionnements de réification. Alors, quand on parle de multi-appartenance, par exemple, très souvent on la définit pas chez vous, hein, mais on la définit très peu dans le langage quotidien, si vous voulez. Quand on est sur les notions de multi-appartenance, d'origine ethnique, c'est des choses qu'on définit très très peu. Je dis ça parce que ça se pose par rapport à l'identité européenne à construire. C'est-à-dire qu'on pose, au moment de la construction européenne, la question de comment on va faire avec les... Je l'ai encore lu dans les textes de l'inspection générale tout à l'heure ce matin, là. Hein. Donc je peux vous citer les personnes, hein, même, qui disent ça. Comment on va faire pour faire l'Europe avec des gens qui sont d'appartenance... Et notamment, c'est le Maghreb qui est pensé. Hein. Enfin, c'est clairement dit. Vous voyez, c'est qu'on est là dans un rapport, dans des jeux d'échelle qui sont tout à fait... Alors, pour terminer, je voudrais faire plusieurs remarques prospectives pour des enquêtes futures, parce qu'évidemment, là, c'est au stade à la fois d'intuition ou de récupération d'éléments d'enquête et de corpus d'autres recherches. Premièrement, l'histoire enseignée est dans un monde... se fait aujourd'hui dans un monde désenchanté. C'est-à-dire tout le monde se dit qu'il faudrait un roman... européen, je l'ai lu 30 fois en préparant cette intervention, 30 fois chez 30 acteurs différents représentant l'institution scolaire à tous les échelons. De l'inspecteur de l'éducation nationale primaire jusqu'au doyen de l'inspection. Donc vraiment, il faut bien qu'on ait conscience de ça. Tout le monde dit qu'il faudra un roman européen qui se substituerait au récit national de la Troisième République pour réellement ancrer la mémoire et l'identité européenne commune, comme on a fait une identité française malgré et au-delà des petites patries. Et en même temps, tout le monde considère que c'est le problème de la subordination de l'enseignement de l'histoire à des fins autres que la connaissance. Et aujourd'hui, c'est quasiment inacceptable. C'est-à-dire l'idée qu'on refasse un roman national ou un roman européen, c'est considéré comme une remythification de la transmission de l'histoire dans le cadre de l'enseignement. Donc on est dans cette espèce de désenchantement, on ne sait plus quoi faire. C'est-à-dire il faut le faire, il ne faut pas le faire. Ça rejoint, d'ailleurs, ça rejoint ce que tu disais en ouverture tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on préfère du coup la situation problème que la restitution de faits au statut de vérité. On a finalement la même problématique en géographie, à mon avis, avec le modèle de Vidal de Lablache, c'est-à-dire que comment aujourd'hui faire aimer la géographie européenne et découvrir la géographie européenne, parce qu'on se forme des citoyens européens, tout simplement, hein, c'est dit dans tous les programmes, alors même, de la même manière qu'on a fait la géographie de la France, c'est-à-dire que n'importe quel Breton qui ne quittait jamais la Bretagne savait ce qu'était la Provence par ses manuels scolaires, par son... Comment réussir à faire ça, à transposer ce modèle-là de la France, synthèse européenne à l'école primaire de la Troisième République, à une géographie de l'Europe qui soit le décalque exact mais évidemment, pas dans les mêmes logiques épistémologiques, puisque l'évolution de la géographie fait qu'on ne peut plus être dans du Vidal de Lablache. Deuxième point de conclusion, il y en a trois. Deuxième point, l'articulation mémoire-identité européenne n'est pas simple à l'échelle nationale, tant et grand l'écart des préoccupations, à mon sens, mémorielles, des adultes et des élèves. Des adultes, pourquoi ? Qui sont aujourd'hui, et ça c'est une des préoccupations qu'on enregistre depuis à peu près une quinzaine d'années, des adultes enseignants qui sont tournés vers le passé souffrant, la question de l'histoire nationale, des colonies, du rapport à l'histoire. Regardez les débats mémoriels dans la communauté éducative, c'est absolument saisissant. Je veux dire, l'INRP est de ce point de vue-là depuis 10-15 ans un centre d'observation extraordinaire. Regardez les débats autour de Guy Mocquet, regardez les débats autour de la colonisation, de la loi de février 2005, enfin je veux dire, on pourrait citer, multiplier les exemples. Et inversement, ça, c'est les préoccupations mémorielles des adultes et les tensions droits de l'homme, valeurs, projets individualistes des adolescents qui sont confiés à l'école et qui fonctionnent avec un ici et maintenant tourné vers l'avenir. Il y a un élève qui a dit, j'ai noté, l'Europe ne permet d'avoir des projets tournés vers l'avenir. Voilà, ça, pour moi, ça rejoint exactement, c'était presque inespéré, ce que j'allais dire. Aux questions mémorielles des uns répond le souci de venir des autres. et aux hier désenchantés des uns répond l'obligation d'avenir enchanté des autres. Or, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les enseignants, l'école, l'institution, dans son, et je me mets dedans, hein, il n'y a aucun souci, fournit cet avenir enchanté, sans pour autant être naïf, sans pour autant être non critique, est-ce qu'on fournit une espérance pour des élèves qui ne demandent que ça et qui sont là-dedans? Et dernier point, je pense que c'est cette question qui est au cœur de l'école et qui constitue aujourd'hui son impensé. C'est-à-dire, on pense les jeunes par quand on est enseignant, on aurait tendance à penser les jeunes par rapport au passé et non par rapport à son rapport à l'avenir. Mais il n'y a pas que moi qui le dis, les sociologues le disent pour plein d'autres sujets sur l'orientation. On sait bien que les enseignants fonctionnent sur l'orientation avec ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire de ce qu'ils connaissent d'eux-mêmes, mais pas de la situation actuelle des choses. Et c'est la presse privée qui fait le travail à la place. L'Europe se fait avec les jeunes. Ils sont européens, profondément historiens, profondément européens. Alors que ressurgit dans la conscience des adultes qui sont chargés de leur emporter un enseignement, des questions lourdes sur la conscience historique du cadre national. Et c'est peut-être un changement de paradigme qu'il faudra appeler, mais ça, c'est pas de notre sort.